Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Allez, c'est mercredi, on va au cinéma. Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Milioni. Bonjour à vous trois.
Bonjour Christophe.
Alors, les films que nous, dont nous allons parler, on n'a pas vu tous les mêmes films. Alors, c'est ça qui est assez intéressant.
Ça va faire plaisir.
Alors, nous allons parler du Temps d'aimer, nous allons parler de Dump Money, nous allons parler du film de Wim Wenders, Perfect Days, que vous avez aimé, Dominique et Marie-Noëlle. Oui. Et puis, peut-être qu'on parlera des Les filles vont bien, que vous avez détesté, Bernard.
Bien aimé
Marie-Noëlle. Donc comme ça, on va voir un peu tout ça. Commençons, si vous voulez, par Le Temps d'aimer. C'est le cinquième long métrage de Katell Chiavari, après Réparer les vivants ou encore Suzanne, qui met en scène entre autres Anaïs Desmoustiers, qui est formidable, Vincent Lacoste, bien sûr, et Paul Beaurepaire. Alors, c'est l'histoire d'une très jeune femme qui a vécu pendant l'occupation une intense histoire d'amour de 15 jours, dont elle sort évidemment tondue et enceinte. Des années plus tard, elle élève son petit garçon et sert dans un restaurant sur la côte bretonne et se lie avec un garçon de famille d'une villa voisine qui écrit une thèse, qui termine ses études. Alors, ils se marient, les secrets de l'un comme de l'autre ressurgissent. On écoute la bande-annonce.
Daniel ! Merci beaucoup.
Il y a pas de quoi ?
Je n'ai pas vu partir. Merci.
Sois sage.
Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. Je ne me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Vous l'aimiez, le père de Daniel?
En fait, ça n'a pas duré longtemps.
Comment il va faire, mon père, pour te retrouver si je change de nom?
Daniel! Pourquoi tu fais ça?
Mon rêve, c'est de travailler dans un dancing. J'adore voir les gens danser, s'amuser.
Maman, je peux dire mon vœu?
Non, sinon il ne se réalisera pas.
Je te le dis quand même.
Daniel.
Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je sais que c'est toi, rends-la-moi.
Je sais que c'est lui, mon père.
Tu t'en fous, c'est pas une femme que t'as épousée, c'est une couverture.
Moi, j'ai pas été ta couverture, moi.
Daniel, arrête-toi.
C'est quoi son nom?
Ton seul père, c'est François, c'est lui qui t'a élevé.
C'est moi son nom.
Je te connais pas, en fait. Est-ce que c'est vrai, tout ça? Peut-être.
Je suis sûr d'une chose, c'est que je suis pas heureux sans toi.
Alors, Dominique, bon, vous avez vu le film.
Alors, Le Temps d'aimer, ben, Le Temps d'aimer, c'est aussi le temps des blessures et de la transgression. Puisque cette femme, en effet, qui a eu un enfant naturel, rencontre un jeune homme, mais un jeune homme qui a eu une polio. Ça se voit pas trop, il boite un petit peu. Et puis surtout, il est homosexuel et il s'en cache. Elle lui sert de couverture, comme elle le dit un moment. Donc,
non, il est bi.
Oui, il est bi, mais enfin, il a tout de même une... Bon. Et donc, c'est le temps des blessures et de la transgression, puisqu'ils sont tous dans la transgression, et même le couple est dans la transgression à un moment, puisqu'ils font presque l'amour à trois.
Hein, oui.
À une époque où tout ça était condamné, et l'homosexualité et le triolisme. Donc, on est vers une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui marche à cloche-pied. C'est-à-dire, on peut aimer malgré tout, mais malgré tout, on souffre. Et c'est la souffrance, parce qu'elle va très loin, cette souffrance, hein, puisque lui finit... on n'est pas obligé de le dire, mais enfin, bon, lui finit mal. Elle, mais ce qui est très beau, c'est même l'image de la fin où son fils, le fils qui est avec un Allemand, la quitte sur un quai de gare. Il a les larmes aux yeux, il voit sa mère s'éloigner. Cette image-là est
très belle. Et enfin la rédemption, enfin il l'aime, voilà. Et enfin elle l'aime. Parce que lorsqu'il prie, il lui dit « Mon vœu, c'est que tu m'aimes un jour ».
Voilà, oui. Non, c'est très beau. Il y a de très belles fausses. Maintenant, il y a des fausses plus faciles. Il y a des longueurs aussi. Mais c'est un film sur l'amour, l'amour impossible ou l'amour... L'amour transgressif,
oui.
Et il est là de tous les côtés. Et ça nous dit malgré tout, oui.
Comment vous avez trouvé les images les uns les autres? Parce que moi, j'ai trouvé que c'était trop moderne. J'ai trouvé qu'on n'était pas vraiment...
Pas tellement dans l'époque, on est dans les années 50,
à peu près. Bon. On n'est pas dans l'époque, on n'est pas dans la sortie de la guerre. J'ai trouvé que c'était trop la Bretagne d'aujourd'hui.
Oui, peut-être,
non
oui. Mais on n'est pas...
Trop clair, peut-être, je ne sais pas.
Mais on ne fait pas de la reconstitution, ce n'est pas le but du film. Hein.
Non, non.
Le but du film, c'est de raconter cette histoire d'amour, c'est tout. Alors c'est vrai que oui, c'est pas vraiment l'après-guerre, mais enfin dans les années 50, c'était l'après-guerre.
Ben oui.
Je les ai un tout petit peu connus. Quand j'étais un tout petit garçon, c'est vrai qu'on était encore dans l'après-guerre, dans certains décors.
En Bretagne particulièrement.
La Bretagne, j'étais pas en Bretagne dans les années 50.
Marie-Noël.
Oui, c'est moi, j'ai été très sensible à la première partie, c'est-à-dire précisément cette évocation de l'après-guerre et d'un amour qui sort, qui émerge de souffrances sans nom. Alors, on a vu au pré-générique des images très impressionnes que moi je ne connaissais pas, que je trouve absolument mais terrible.
Et elle a 19 ans, hein. Oui. Elle a 19 ans dans le film, quand elle est tondue, je ne sais pas si vous imaginez.
Libération. Et cette histoire d'amour est très touchante, très romanesque. Il y a une belle épaisseur psychologique, historique, de paysage aussi, cette Bretagne, la mer. Et puis il y a l'enfant. Moi, j'ai été très touchée par la présence de l'enfant. Cet enfant... en quête de son père et de l'amour de sa mère, parce qu'il n'est pour sa mère qu'un mauvais souvenir. Mmh. Et ça, c'est terrible. Il l'éprouve profondément et avec l'impossibilité d'exprimer cela de son âge. C'est un petit garçon. Et ça, j'ai été très touchée par cette dimension-là qui s'ajoute. Alors ça, c'est une belle première partie.
Et le beau-père est parfait, parce qu'il l'adopte merveilleusement. C'est toujours lui qui s'en occupe.
Vincent Lacoste est très, très bien.
C'est lui qui joue avec lui. Il est très, très bien comme personnage.
Très, très bien. Très intéressant. Tous les trois sont bien campés et bien... creusé et étoffé. Et puis alors, on quitte la Bretagne, malheureusement, qui devait être très inspirante, et on part pour Châteauroux. Et alors là, j'avoue que j'ai trouvé ça tout de suite, très vite, artificiel au possible. Aussi bien l'intrigue que la mise en scène, la manière de filmer extrêmement... vraiment, comment dire, très, très aguicheuse, mais avec le côté pub des Américains, le camp américain, comme une espèce de mythe, mais publicitaire. Coca-Cola...
Camel et chewing-gum.
Aucun intérêt. Et la dernière partie, un peu boiteuse aussi. Le récit n'est pas très assuré. Alors, les comédiens restent excellents. Et pour moi, c'est
elle
ce qui emporte. Anaïs de Moustier est merveilleuse. Vraiment, elle est d'une finesse, d'une subtilité, d'une intelligence. Et puis, Vincent Lacoste aussi.
Vincent Lacoste, on ne le voit pas vieillir.
Non.
Il se passe 20 ans quand même.
Oui.
Donc,
et puis,
c'est un peu embêtant.
La dernière partie est un peu vieux film, des années 50-60. On n'y croit pas beaucoup. Voilà. Donc, ça m'a un peu déçue dans la narration, mais il y a une patte romanesque au début qui est touchante et intéressante.
Bernard Médioni.
Oui, mitigé, parce qu'en effet, il y a de très louables ambitions pour ce qui est de l'intrigue. Et c'est dommage qu'à mi-parcours, je rejoins Marie-Noël, hein, vraiment, il y a une discrète décélération en raison de quelques valses hésitations. On a l'impression qu'à un moment, le film ne sait plus trop où il va, où il y va de manière à pas compter. Et c'est dommage parce que Marie-Noël a employé le mot romanesque. En tout cas, c'est pittoresque et il y a l'envie de bâtir une intrigue. Je suis tout à fait d'accord avec mes camarades en ce qui concerne l'interprétation. Pour Anaïs de Moustier, elle a beaucoup d'aisance et une aisance discrète et juste. Vincent Lacoste est tout en nuances, et ce qui fait que l'interprétation vraiment ne manque pas de consistance. Qu'y a-t-il de meilleur dans ce film ? À mes yeux, je pense que c'est le début et la fin. C'est-à-dire, justement, cette entrée en matière très rude avec ces femmes tondues, auxquelles faisait d'ailleurs allusion Jean Rochefort, qui l'a vécu, qui les a vues, et ça l'a profondément marqué tout au long de sa vie.
Parce qu'on a vu des documents comme ça.
Absolument. Et cette fin sur le quai de gare, on n'en dira pas trop. Mais c'est vrai que là, dans un cas comme dans l'autre, nous avons une dramatisation trapue et qui, en plus, trouve le ton voulu. Et ça, c'est plutôt très, très, très appréciable. On peut aussi quand même souligner que la musique que l'on a entendue dans la bande-annonce possède beaucoup de grâce à souvent d'ailleurs des instruments à vent, mélancoliques mais jamais chagrins, ce qui donne à l'ensemble beaucoup de maintien. Maintenant, je suis d'accord avec vous, non seulement Vincent Lacoste ne vieillit pas, mais même on peut dire qu'Anaïs de Moustier ne porte qu'une qu'une légère trace du temps, en tout cas sur son visage. Et c'est gênant quand même que les trois enfants, grandissent, mais ne se ressemblent pas. Aucun des trois interprètes, c'est tout de même un petit peu gênant, alors que c'est censé être quand même le même personnage. On retrouve très difficilement celui à 18 ans et celui à 5 ans. Et ça, c'est tout de même un petit peu ennuyeux. La scène d'amour ternaire n'évite pas une certaine complaisance aussi vaine qu'ordinaire. Et puis, on peut s'étonner...
Elle est dérangeante, cette scène.
Elle est dérangeante.
On l'a vu ailleurs.
Mais elle est fausse, oui.
Dès les années 90, avec un film qui s'appelait Deux garçons, une fille, trois possibilités, avec Lara Flynn Boyle et un des frères Baldwin. On voyait ça donc il y a 30 ans. On peut s'étonner qu'un personnage très important quitte comme ça l'intrigue sans crier gare, alors que c'est quand même un personnage clé. Je suis d'accord avec vous, les portraits des soldats américains entre ivresse et libido, c'est quand même discrètement caricatural. On se perd dans la chronologie aussi, il n'y a pas beaucoup de repères. Et puis, les gros plans de la réalisation, c'est quand même une faiblesse. Et la narration aussi, qui semble parfois en mal de ferment. Et ça, c'est ennuyeux. Alors, bien sûr, ici, on peut rappeler d'ailleurs Nettoyage à sec avec cette structure de trio. Ici, le mari et la femme vont mettre bas les masques à la faveur de l'arrivée d'un soldat américain, comme si, oui, on a donné la Ford au couple.
Dump Money maintenant de Greg Gillespie, le réalisateur de Moitonia et de Cruella. Il est australien, je précise, parce que ça permet de comprendre quelques petites choses sur ce film fort américain. C'est l'histoire vraie d'un homme ordinaire et de ses followers qui ont ébranlé Wall Street. On est en 2021. Ils ont tout misé sur GameStop, une entreprise à laquelle personne ne croyait. Et puis, alors, comme ils mettent leurs économies, Keith Gill, ce fameux geek, et ceux qui décident de le suivre vont gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une opposition entre ces jeunes et Wall Street et les institutions financières, et qu'il y a aujourd'hui comme une ZAD, une zone à défendre de ces jeunes qui rentrent dans le marché boursier. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Je l'ai choisie en français parce que c'est plus facile pour à la radio.
Putain de bordel de merde.
Je dois dire que c'est la première fois que je vois ça.
Putain de bordel de merde. C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais vu.
Ça va, chérie ?
11 putains de millions de dollars ? Tu vas en faire quoi ? T'acheter une Ferrari ? Oh, putain !
Eh, surveille ton langage, le petit écoute, là. Eh, les amis, c'est Roaring Kitty. Je vais choisir une action et vous expliquer pourquoi elle est intéressante. Cette action, c'est... GameStop.
J'adore ce mec.
Les petits porteurs misent sur GameStop.
Ils ont l'air de croire que c'est un bon investissement. On dirait qu'il y a un type qui les oriente vers cet achat.
C'est qui ce con ?
Le gourou de l'argent facile.
Je veux bien ma part.
Wall Street parie que cette boîte va se planter. Et si elle se plante, ces connards des fonds de pension vont bien se goinfrer. 70 000 personnes ont vu cette vidéo.
Roaring Kitty, je t'adore !
S'il y va, je le suis.
L'action GameStop continue son envolée.
Cette action monte tout le temps. Quand elle sera au top, je t'offrirai un palais.
Allez, on trinque.
Mon frère est un putain de nerd.
Wall Street doit voir ça, non ?
Oh putain de merde.
Oh putain !
Tu ferais bien de te connecter.
Oh putain de merde.
Vous avez une minute ?
C'est-à-dire...
Chérie, on a gagné combien aujourd'hui ?
5 millions.
On a perdu combien aujourd'hui ?
1 milliard.
Et hier ?
4 millions.
Et hier ?
1 milliard.
Chérie.
Ouais ?
On est vraiment pété de thunes.
Les milliardaires.
Je ne sais pas si commencer chaque phrase ou presque par putain, fuck, dans la version originale, fait un bon dialogue.
Mais je l'ai vu en VO.
Alors on entend des fuck sans arrêt. Quand vous écoutez la bande-annonce, on a quand même eu, en 2 minutes 50, on a quand même eu 9 fois putain.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est tiré d'un fait authentique. Et après, à la fin du film, on nous met tout ce que sont devenus. C'est vraiment les David contre Goliath, quoi.
Oui.
Et les petits David qui ont cette idée de sauver ce magasin GameStop. C'est la revanche des petits sur la bourse, ce qui prouve la fragilité du système capitaliste. Ça, c'est très intéressant. parce que le ton du film est celui de la comédie, parfois un petit peu branché, parfois un peu tape à l'œil, il faut dire.
Pas fait rire. Hein.
Non. Ben, à l'esbrouf, un peu une mise en scène phoque, bon, qui est une mise en scène mode qui nuit. Finalement, le film aurait mérité d'être pris plus au sérieux, d'être moins comédie, peut-être plus proche d'Atreides, ça aurait été peut-être plus puissant, plus percutant, plus pertinent surtout. Là, on est dans une comédie de mœurs, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, ils ont réussi quelque chose. Ils sont partis de rien. À partir du moment où ils ont tous racheté des dents, ils ont mis la bourse en échec. C'est la seule chose qu'on puisse retenir.
Wall Street est une citadelle, peut absolument pas renverser le système.
Voilà, on ne peut pas renverser le système, mais on peut tout de même le mettre en doute, puis on voit ces gens qui n'ont rien, tout d'un coup devenir milliardaires en quelques jours. C'est assez amusant, et c'est d'autant plus pertinent que c'est vrai, bon, que ça s'est passé un petit peu comme ça.
Marie-Noël. Ah oui, vous ne l'avez pas vu. Alors, Bernard.
Eh bien, moi, j'ai trouvé ça réussi. Trouvé ça réussi, notamment en raison de sa narration, qui est très tonique, qui est très élancée. Contrairement à vous, j'ai ri à certains passages, notamment dans l'avion, quand elle dit « Ah, mais j'ai peut-être perdu plusieurs millions ». Elle vient lui apporter un petit verre d'alcool, elle lui dit « Bon, je reviens, je vais vous apporter quelque chose de plus fort ». Et il y a comme ça quelques répliques qui faisaient d'ailleurs rire la salle. Ce ton apporte quand même beaucoup à ce film, justement, à le rendre profondément sympathique. Étonnamment, il y a quand même une scène très touchante, la scène au cimetière avec la sœur décédée. On n'en fait pas trop, c'est très pudique, et je trouve que justement en raison de cette pudeur, bah, c'est une scène qui va droit au cœur. Et puis les différents personnages, bien qu'ils aient une présence relativement rare à l'écran, sont bien campés. Ils sont attrayants. Vous avez un vendeur, vous avez une infirmière, et ils sont dans l'ensemble assez sympathiques. Et le couple avec notamment Paul Dano, qui campe ce petit génie de la finance, on a envie de les suivre, on a envie de savoir ce qu'ils vont devenir. Maintenant, c'est vrai que ça manque parfois de clarté, notamment dans les termes employés, comme dans un précédent film qui était fort réussi, mais qui était sur un versant beaucoup plus dramatique, qui était Margin Call, avec Zachary Quinto et Kevin Spacey, où là on était dans le drame, là on est bien sûr plutôt dans la comédie, mais c'est un peu réservé quand même aux experts de la finance. La musique serait due à une accumulation de rap engourdi, ce qui fatigue. Ce qui fatigue Delor Louis. Je suis d'accord avec Dominique que la réalisation peut se révéler artificielle à cause d'indiscrètes ficelles, d'un ralenti sans sel et puis d'effets de montage assez conventionnels. Ça n'échappe pas au manichéisme parce que c'est vrai que tous les particuliers sont du côté du bien et tous ceux qui sont à Wall Street sont des nains ici et des nains en plus arrogants. Et puis, à quoi sert le tout début, cette construction en arrière, comme si on refusait maintenant toute structure linéaire. Et en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je dirais pour conclure que voilà une œuvre en tout cas fort corrosive sur les arcanes de la bourse, comme si ses auteurs s'étaient employés à préparer une solution de Wall Street sulfurique.
Oui, alors il nous reste 6 minutes à peu près pour parler d'un film que vous avez beaucoup aimé, Marie-Noël et Dominique, un film de Wim Wenders qui s'appelle Perfect Days. On vous écoute.
La bande-annonce.
Non, il n'y a pas de bande-annonce.
Il n'y a pas de bande-annonce.
Non. Vous êtes content, vous allez pouvoir parler davantage.
Voilà, c'est formidable. Alors moi, j'avais un a priori positif, très positif, qui s'est confirmé. Quand j'avais lu le résumé du film, c'est une ligne, puisque c'est la vie quotidienne d'un homme qui nettoie les toilettes publiques et qui a quelques passions. Et j'ai pensé à Patterson de Jim Jarmusch. C'est exactement Patterson qui était l'histoire d'un conducteur de bus qui menait sa petite vie comme ça. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce film avec Adam Driver. Donc, c'est exactement le... Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Et pourtant, il se passe beaucoup de choses. Mais c'est des choses minimalistes. Il le suit. On pense à Ozu aussi, qui filmait le quotidien japonais. Et voilà, parce qu'il aime lire. Il lit toujours. Il est toujours en train de lire un livre. Il écoute de la musique. Et quelle musique? Patti Smith, Otis Redding, Lou Reed, les Beatles, ça n'arrête pas. Il écoute cette musique qui l'entraîne, qui meuble un peu sa solitude. Et puis, il prend la photo. Il prend des photos aussi. Il est très obsédé par la photo. Il fait quelques rencontres. Une fille avec un copain. Il revoit sa nièce qui vient vivre un peu avec lui. Et puis, un homme malade à la fin avec lequel il danse. Donc, il y a tout de même une certaine fantaisie. Une fantaisie très lente, très... proche de la monotonie, mais tout de même qui vient meubler cette solitude qui est remplie par la passion. Parce que cet être qui fait un métier presque indigne, il a des passions, et ces passions, il les soupèse. C'est le temps qui s'arrête. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un film contemplatif sur le temps immobile, mais un temps immobile qui est rempli de passions, qui est rempli d'habitudes, mais qu'on partage avec lui. C'est un film minimaliste qui prend le temps à témoin pour s'arrêter sur des petites passions et qui... C'est le temps suspendu, c'est le goût des fours simples, et très curieusement, ça donne presque envie de mener cette vie-là.
Ah, voilà. C'est joli. Marie-Noël.
Oui, c'est curieux parce que le film a été présenté à Cannes, où l'acteur a remporté le prix d'interprétation. Et ce qui ressortait la plupart du temps, c'est que ça se passait principalement dans les toilettes publiques, parce que le personnage central...
Il nettoie les toilettes.
Et Tom Pipi.
Oui, Tom Pipi. Voilà. Et j'ai vu tout de suite autre chose.
Bien sûr, je
suis très étonnée de cette présentation. Ce que j'ai vu tout de suite, c'est la sérénité d'un homme décentré de lui-même, attentif à la vie qui l'entoure. Dès le matin, on le voit se lever, il regarde le soleil, il regarde l'arbre à sa fenêtre. C'est quelqu'un qui fait attention à la lumière, aux gens.
Et il est heureux, il soupèse la vie, il est heureux, c'est ça.
Il regarde, il écoute, il prend sa voiture et aussitôt, on a la musique, parce que la musique, il l'entend en roulant, et que donc la musique, tous ces standards que Dominique a cités, dont certains sont excellents, Sitting on the Dock of the Bay, le Otis Redding, on l'entend, ça va avec la ville, on l'entend le long du fleuve, tout est en harmonie, il met en harmonie ses sentiments intimes, ce qu'il aime. C'est un homme extrêmement cultivé et sensible. Et puis, le paysage, ce Tokyo dans lequel Wim Wenders a déjà erré longtemps. Et on le voit nettoyer les toilettes parce que c'est son gagne-pain,
c'est tout.
Et
on entend le pénitencier en japonais, ce qui est toujours assez rare.
Et surtout... excellent. Donc, toute cette harmonie, tout cet accord d'essence, paysage, de l'itinérance avec la musique, tout ça est extrêmement subtil et raffiné. Et c'est le portrait, finalement, d'un homme détaché, décentré de lui-même, attentif à la vie et d'une pauvreté heureuse. Attentif aux relations aussi. Il y a une très jolie scène avec un tout petit garçon qui est assis sur les toilettes et qui a perdu sa maman et qui bouge plus, sait plus où aller. Et lui va le ramener à sa mère qui n'a pas un regard pour lui. Elle récupère son enfant, c'est tout. Et voilà, c'est l'homme qu'on oublie.
Donc le comédien qu'on n'oubliera pas, c'est Que J.
Lui qui a eu le prix d'interprétation à Cannes.
Prix d'interprétation. Magnifique comédien, avec très peu de mots, mais une présence.
C'est très beau d'ailleurs.
Très beau, constamment. On n'oubliera pas que Wim Wenders s'est intéressé à Saint-François d'Assise. Eh bien, il y a quelque chose comme ça dans son personnage.
Donc à voir absolument, Perfect Days.
Ah, c'est à voir, oui, vraiment.
Enfin, bon. Eh bien, nous irons le voir, Bernard.
Même si c'est un peu un cours de Vim drastique. Non,
quelques secondes, il nous reste, mais vraiment 30 secondes, pour que vous nous parliez des filles qui vont bien.
C'est un charmant film. C'était un nid de filles, comme il y a le nid de gentilshommes de Turgenev. C'est un nid de filles dans une maison de vacances qui sont là pour répéter une pièce. Et il y a une petite fille aussi qui les accueille. Décidément, les enfants sont charmants. Rien ne vaut la compagnie des enfants. Et donc, comme le sujet y invite, c'est un mélange de pièces et de vie, de théâtre et de vie. Et c'est un petit exercice de vie. léger, lumineux, atmosphère de vacances, puis avec des notes graves, parce que on aborde des quantités de thèmes, la honte, l'amour, la vie, la mort, la maternité, parce qu'il y en a une qui est enceinte, qui attend un bébé. Donc ces choses-là sont abordées avec grâce. C'est pas grand-chose, c'est ténu, c'est fragile, mais c'est un joli exercice.
Je retiendrai quelque chose que vient de dire Marie-Noël, c'est pas grand-chose.
Oui,
voilà, bah, le générique, tourne.
Le féminisme épouse ici le minimalisme pour engendrer le somnambulisme.
Le générique tourne, vous l'entendez.
Oui, les tréteaux se resserrent, là, en l'occurrence.
Merci, merci à vous, Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde et vous, Bernard Mudioni. Merci à Cédric Cobat, François Dieudonné, Philippe Malpeche, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Demain, je serai en direct à la Procure, dans le magasin, pour faire mes emplettes de Noël et puis vous les faire partager. Voilà, ça sera demain à 11h sur Radio Notre-Dame et à 12h30 sur RCF.